Session Amitié Contemplation, Père Philippe, 4 juillet 1997, Saint-Jeudard, seconde conférence.
Alors là, il y a une question qui est posée par plusieurs par rapport à une chose que vous avez dite hier. On vous a demandé si le philosophe pouvait dire qu'il y a une amitié entre Dieu et l'homme. Vous avez répondu oui.
J'ai répondu spontanément oui. Exprès. Pour vous faire comprendre que l'amour d'amitié doit se comprendre comme on dit au point de vue philosophique. Analogiquement. C'est-à-dire, analogie, c'est la proportion. Proportionnellement, c'est-à-dire d'une manière tout autre que notre amitié, mais avec quelque chose de commun. C'est ça l'analogie. Enfin, on retrouve l'amour d'amitié à des niveaux très différents. Déjà, quand le vieil Aristote prend trois types d'amitié, l'amitié honnête, et l'amitié de bienveillance et de véritable amour spirituel. On aime l'autre pour lui et non pas pour nous. Un amour de désintéressement, un amour pur. Aristote est la véritable amitié, l'amitié de jouissance. Je jouis de mon ami, je suis heureux de sa présence. L'aspect passionnel domine, c'est pour moi. Et puis l'amour utilitaire. Vous voyez, on dit trois amitiés. Parce qu'il y a quelque chose de commun, il y a une réciprocité. Et surtout cet élément de réciprocité dans l'amour, qu'Aristote considère comme le caractère particulier de l'amour d'amitié. Il y a une réciprocité. Une réciprocité tout à fait différente dans ces trois domaines. Pour qu'il y ait amitié, il faut une réciprocité. Alors, quand il s'agit de ma relation avec Dieu créateur, indépendamment de la grâce, je peux dire que Dieu me crée par amour. Dans sa sagesse, je ne lui apporte rien, donc c'est un pur amour, et c'est vraiment dans un pur amour, et il le fait pour moi, il ne le fait pas pour lui. La distance entre Dieu et moi, pour les Grecs, était taxée comme une chose infinie, ce qui est vrai. Il ne peut pas y avoir de plus grande différence que entre le Créateur et sa créature. On passe de l'infini au fini. Mais ce que le Grec peut-être ne voyait peut-être pas avec autant de vérité qu'on peut, c'est de voir que l'adoration Dieu librement est un amour. Je ne peux pas adorer sans amour. Et je remercie Dieu. Aristote reconnaît qu'il peut y avoir un amour d'amitié entre quelqu'un qui est source et l'autre qui reçoit. Amitié et le disciple. L'amitié entre le père et son fils et sa fille. La mère aussi. Vous voyez, déjà, il reconnaît que l'amitié est au-delà de l'égalité. Il y a des amitiés où il y a une égalité, mais ce n'est pas lié nécessairement à l'amitié. Nous qui avons très fort le sens de l'égalité, souvent, nous savons qu'il y a trop de différences entre toi et l'autre. Vous ne pourrez pas être des amis. Le jugement des parents par rapport à un fils qui veut épouser telle autre personne. Et les parents ne sont pas très chauds. Ils diront, mais non, il y a trop de différences de civilisation, de culture, ça ne va pas aller. Ça ne peut pas aller. Il y a un petit quelque chose de vrai. Et puis en même temps, c'est pas entièrement vrai. S'il y a un très grand amour. Et la difficulté, c'est que le très grand amour du point de départ et des fiançailles ne demeure pas toujours avec la même acuité. On s'habitue, on s'use. Alors, au bout de 15 ans de mariage, aujourd'hui beaucoup plus vite, au bout de, on dit « Ah non, je suis trompé, vraiment ». Vous voyez, parce qu'on n'a pas su maintenir une amitié avec quelqu'un de trop différent, de trop complémentaire. Si on avait été plus astucieux, on aurait pu, sans doute. Pas toujours, mais on aurait pu. Lorsqu'il s'agit de Dieu, la réponse, s'il n'y avait pas de réponse de l'homme à Dieu, il n'y aurait pas d'amitié possible. Il y a une réponse. Je réponds à l'amour de Dieu en l'adorant, en le remerciant. Et c'est ma manière de l'aimer. Il y a une noblesse dans l'adoration. On reconnaît que Dieu est mon créateur. Et j'essaie ce que nous disons. J'essaie de le contempler, de reconnaître que la présence de Dieu, reconnue et aimée, est un très grand soutien pour moi. Donc vous voyez, l'adoration et la contemplation maintiennent un retour vers Dieu et maintiennent qu'il y a une certaine réciprocité. Évidemment, cette réciprocité, elle est très particulière. Il y a un abîme entre le Créateur et la créature. Et cependant, cet abîme est dépassé par l'amour. Dans l'amour, il y a. Dans l'être, il y a un abîme. Dans l'amour, il y a quelque chose qui fait que je peux aimer vraiment Dieu en l'adorant. En l'adorant, il y a quelque chose que je retrouve de commun avec Dieu et qui est très grand et très beau. C'est pour ça que je crois qu'on peut dire y avoir certaines amitiés très particulières, faites de révérence avant tout, faites de respect avant tout. Mais voyez, l'amour d'amitié n'exige pas toujours le service. Il peut être un amour au-delà du service. Il me semble. Attention, vous voyez, en me posant la question, vous m'avez surpris. je ne m'attendais pas à la question. Et alors à ces moments-là, on dit quelque chose souvent qui va plus loin que ce qu'on dirait, prudemment. Mais on dit quelque chose peut-être de très vrai. Alors, il faut faire attention de bien comprendre qu'il s'agit d'une amitié prise d'une manière très analogique. Il y a une grande diversité. Il y a un petit quelque chose de commun. Et comme ce petit quelque chose de commun a une très grande valeur, c'est vrai, pouvoir aimer Dieu en toute vérité, c'est quand même extraordinaire. Et cela, Thomas d'Aquin le reconnaît. Notre relation avec Dieu n'est pas uniquement une relation de respect, de serviteur. Vous voyez, une moralisation trop grande conduira à ça. Mais non, c'est le respect avant. C'est vrai. C'est le respect qui domine. C'est l'adoration. Mais cette adoration, loin d'empêcher l'amour, est au contraire une disposition merveilleuse pour l'amour. Je crois qu'au plan naturel, l'amour qu'on a pour Dieu est un amour merveilleux, de tout petit, de pauvre, qui prie et qui n'hésite pas de tout demander à Dieu quand on a découvert qui était Dieu. Et je crois que ça touche Dieu. Dieu est très étonné de voir que la créature a ce toupet métaphysique. Dire qu'il y a, par l'adoration et au-delà de l'adoration, une amitié. Vous savez, on est quoi très touché de voir ça. Ça me touche toujours beaucoup. De voir, quand on enseigne, par exemple, de voir qu'il se crée une amitié réelle avec les plus pauvres parmi ses étudiants. Ceux qui ont beaucoup de peine qui se rattrapent par l'amour et qui ont quelquefois un sens très étonnant d'une amitié. Il y a une note spéciale qui est très touchante. Alors je ne le fais pas pour ça. Ce qui touche le père. Et une amitié, vous voyez, d'un grand-père avec sa petite fille. C'est tellement beau ça. Et c'est tellement touchant. Un grand-père par sa petite fille. La petite fille peut tout obtenir du grand-père. Et ça, c'est parce que il y a une telle distance d'âge, une telle distance de condition, tout ça, de voir l'amour qui perce au-delà de ça et qui est victorieux de cette distance. C'est une victoire prodigieuse de l'amour, ça. Et moi, ça me fait penser à cette chose étonnante quand on voit un brin d'herbe, une petite tige de blé qui pousse dans le macadam, là où il y a eu une brisure du macadam par la gelée. C'est touchant. Macadam exprime toute la distance. Normalement, le macadam devrait étouffer tout. Eh bien, non. La vie passe à travers. Et la vie, c'est l'amour avant tout. En premier lieu. Et ça arrive à être victorieux de cette et d'une amitié avec Dieu. Au plan surnaturel, saint Thomas n'hésite pas de le dire, et saint Augustin. Et ça a été une grande tradition parmi tous les théologiens. Eh bien, je crois qu'il y a un enracinement naturel à cela. La grâce présuppose la nature, la possibilité. Je ne le dis pas à cause de ça, philosophiquement, mais après coup, je me dis, mais oui, au fond, c'est normal.
Il y a une autre question qui est par rapport à une chose que vous avez dit ce matin et avec le début de la session. Vous avez dit, il vaut mieux aimer les réalités supérieures à moi que les connaître. L'amour, donc par rapport aux réalités qui nous dépassent, est donc plus grand que l'intelligence. Pourtant, vous avez dit aussi, dans la contemplation, l'amour est au service de l'intelligence. L'intelligence va donc plus loin que l'amour. Comment concilier ces deux affirmations qui me semblent contradictoires ?
Non, puisqu'elles ne sont pas contradictoires, puisqu'elles sont à l'égard de deux réalités différentes. Mais c'est vrai que ça nous semble tout à fait normal de dire dans l'amitié que l'intelligence est au service de l'amour. L'amitié. Des quantités d'amitié, d'amour d'amitié qui ont existé sont rompues à cause d'un manque d'intelligence. Pour maintenir une véritable amour d'amitié, il faut être très intelligent de part et d'autre. C'est pas l'habileté, mais l'intelligence rend habile et fait comprendre comment on peut, après certaines bêtises, se raccrocher. Ça me frappe beaucoup, ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est le pain quotidien, hélas, des ruptures d'amitié. Même des ruptures d'amitié entre époux et épouse. Et très souvent, c'est parce qu'on n'a pas su donner l'aliment nécessaire à ce feu. À cet amour entre deux personnes humaines. Alors, l'amour n'a pas su progresser comme il aurait dû progresser et devenir un grand feu. On n'éteint pas un grand feu. On éteint facilement toute petite flamme. Et l'amour demande de tenir un grand feu et de ne pas rester une petite flamme. Et très souvent, c'est qu'on n'a pas eu l'intelligence de nourrir cet amour, de découvrir ce qui fait plaisir à l'autre, le petit détail de rien du tout qui l'autre n'avait pas vu puisque c'était pour lui quelque chose de tout à fait insignifiant. Il faut être un peu maternel dans l'amour d'amitié pour l'autre et pour savoir ce qui va nourrir son amour. C'est, je crois, le grand art de toute éducation, c'est de maintenir cet amour. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Parce que, comme j'ai beaucoup enseigné dans ma vie, maintenir l'attention, maintenir la recherche de la vérité chez les étudiants, oui, il doit y avoir un certain amour d'amitié entre le professeur et les étudiants. Et très souvent, parce qu'il manque maintenu. Je donne mon cours et puis c'est tout. Je m'en fiche de mes étudiants. Non, pas du tout. Je ne peux donner vraiment un cours de recherche de la vérité que si, entre le professeur et les étudiants qui l'écoutent, se crée un certain climat d'amitié. Je me souviens de cette réflexion d'une mère qu'on avait invitée à Fribourg pour parler un peu de l'éducation. C'est une mère qui avait eu de nombreux enfants et qui avait beaucoup réfléchi sur son, comme elle disait, son métier éducatrice. Alors elle racontait ce petit détail. Un beau jour, mon petit gars est revenu du collège disant: maman, les mathématiques c'est idiot. Premier cours de mathématiques, d'algèbre. C'est idiot. Le professeur a dit 1 et 1, 2. 1 et 1, c'est 1. C'est vrai en métaphysique. Ce n'est plus vrai en algèbre. Donc le gosse avait une intelligence métaphysique plus que mathématiques. Mais la mère ne pouvait pas dire ça. La mère a écouté. Puis comme elle était très mère, elle a été voir le professeur. Et elle a tout de suite compris. Tout de suite, elle se présente et la mère de telle et la... Oh oui, il n'y comprend rien à la lueuvre. Bon, la mère a dit, il y a dû avoir entre deux une petite opposition. S'entendent pas. Alors la mère dit, est-ce que vous l'avez vu en particulier? Oh non, je n'ai pas le temps. Peut-être ce que vous devriez faire, vous avez peut-être dû vis-à-vis de lui un geste qui vous est normal et qui pour lui était un été noir. Alors le professeur, mais je suis pas là pour allumer un feu en lui. La mère dit, je sais pas, vous n'êtes pas là non plus comme professeur pour être un été. La mère se vengeait un tout petit peu vis-à-vis du professeur. Elle avait raison, du reste. Une bonne tigresse qui m'empêchait de mettre cette inimitié entre eux. Et voyez, l'amour ouvre notre intelligence. Quand on aime quelque chose, on devient intelligent. Et dans l'amour d'amitié, c'est indispensable. Des quantités d'amour d'amitié sont brisées par un manque d'intelligence. On n'a pas su éveiller assez. Regardez, on avait deux domaines. Le domaine de la raison et le domaine de l'amour. Puis on a oublié l'intelligence. La raison raisonnante, logique, ne peut pas allumer un amour spirituel pour une personne. Parce que la personne n'est pas logique. Il faut l'intelligence de la personne pour éveiller et maintenir cet amour. Ça avance l'heure, alors faut pas. Quoique c'est ça qui est très important, oui, au point de vue éducatif et au point de vue de son auto-éducation. C'est de savoir mettre l'intelligence au service de l'amour et de mettre l'amour au service de l'intelligence. C'est réciproque. Il ne faut pas confondre les domaines, mais c'est réciproque. Et on entre dans la sagesse que lorsque l'amour est au service de l'intelligence. Mais quand il s'agit de connaître une personne, il faut l'aimer. L'ouverture du cœur se fait dans l'amour et pas autrement.
Pourriez-vous préciser la différence qu'il y a entre la présence de Dieu dans l'adoration et la présence de Dieu dans la contemplation? Y a-t-il deux modes différents de présence?
Très joli ça. C'est très juste. C'est très juste. Dans l'adoration, on est en présence du Dieu Tout-Puissant. Dieu Créateur. Mais il ne faut pas oublier que la toute-puissance de Dieu ne fait qu'un avec sa bonté. Oh Dieu, la toute-puissance, s'identifie à sa bonté. Il a une bonté infinie et toute-puissante. Mais je distingue avec mon intelligence les différents attributs de Dieu. Et j'ai raison, puisque je n'ai pas l'intuition de Dieu. Je ne le connais qu'analogiquement, donc partiellement et selon des visions différentes. Prenez comme exemple, quand vous voulez regarder une cathédrale comme Wesley, si vous ne prenez qu'un seul point de vue, vous connaissez ce point de vue. Mais celui qui connaît bien la cathédrale viendra vous dire, venez, je vais vous montrer un autre point de vue, tout à fait différent. Mais c'est vrai, je ne peux pas dans un seul regard saisir un chef-d'œuvre, saisir surtout un chef-d'œuvre architectural. C'est déjà vrai pour une statue. Très belle statue de taille humaine. Vous ne pouvez pas la saisir intuitivement dans un seul regard. Vous prenez des regards différents. Vous voyez, c'est ça l'analogie. Vous regardez des points de vue différents. Et nous avons, nous, un type de connaissance nouveau qu'on n'avait pas avant. La connaissance aérienne. Vous aimez regarder certains détails de la nature ou certains immeubles d'en haut. L'homme, il n'y a plus grand chose. Mais ça ne veut rien. Comme c'est un roseau pensant. Quand je suis tout en haut, je dis bien, je comprends le roseau pensant. Il n'est pas grand, il est tout petit. Je vois un petit point et je prends vite des jumelles. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que naturellement, je fais des perspectives différentes. Je prends des points de vue différents pour connaître quelque chose qui m'échappe dans un seul regard. La connaissance de Dieu implique la connaissance de tous ses attributs. Je regarde la bonté de Dieu. Je regarde la simplicité de Dieu. Je regarde la volonté de Dieu. Je regarde son amour. Je regarde son intelligence. Parce que je n'ai pas un regard intuitif sur Dieu. J'ai un regard contemplatif qui reste partiel. Et c'est ça qui est merveilleux dans la contemplation naturelle de Dieu. Je regarde la bonté de Dieu omniprésente. Je regarde la lumière de Dieu. Dieu est lumière, son intelligence. Je regarde sa bonté, sa justice, sa providence. Il y a toutes ces perspectives différentes qui toutes s'unissent. années. Quand j'adore Dieu et que je suis en présence de Dieu et que je ne vois que cela. naturelle, divine. L'aspect crainte dominera.
Très peu de personnes parviennent à la contemplation philosophique. Est-ce le signe que Dieu préfère ces personnes aux autres et qu'il aime moins les autres ?
Non. Il les a conduits par une autre voie. C'est pas dit dans l'Évangile. Et Jésus ne nous le dit pas. Tu feras de la philosophie. ce que c'est que le bien et le mal, ce que la philosophie nous aide à comprendre, on risque de se laisser séduire par les résultats quantitatifs, mirobolants, simples petites signatures, parce que le démon aussi. Normal. est averti, on fait attention. Mais quand t'es fragile, et c'est le phénomène de l'amour d'amitié, mal compris, t'en fais pas assez attention. Tu restes tout de suite ce que j'ai répondu à cette étudiante. Fais attention. Vous voulez fréquenter quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent que vous. Et qui n'a pas d'intention droite de recherche de la vérité. Alors il va vous rouler. Il va faire avec vous un contrat. Et vous ne verrez plus la différence entre l'erreur et la vérité. Parce que c'est toujours ce que ceux qui ne cherchent pas la vérité cherchent. Un amalgame de vérité et d'erreur. Et vous ne saurez plus discerner.
Est-ce philosophique d'avoir des extases comme Est-ce philosophique d'avoir des extases comme Plotin ou Socrate ?
Je ne crois pas. Je dis ça, non pas parce que je n'en ai pas. Mais l'amour est extatique. En ce sens qu'il nous fait sortir de nous. Allah sait très bien. C'est philosophique d'avoir un amour de l'autre et une recherche de l'autre et ne pas regarder l'autre toujours dans ma perspective à nous, à moi. Alors, c'est très bien d'avoir un grand amour pour l'autre, essayer de le connaître. Et l'extase telle qu'on l'a imaginatif. Vous vous réveillez progressivement et c'est lorsque le toucher fait le discernement entre le lit dans lequel vous êtes et puis votre image. Voyez, il y a un moment où les sens reviennent et vous donnent une conscience. Ah, voilà le réel, voilà l'imaginaire. C'est très vrai que les cauchemars peuvent vous donner des hallucinations. Vous êtes coupé du réel. Et vous ne pouvez plus juger où est le réel. Et où est l'hallucination, c'est-à-dire le rêve, le cauchemar, le gros chien qui vous poursuit, ou le loup, ou le brigand avec son revolver. Et vous voyez que tout est paisible. Pas de brigand, il y a le lit. Bien, au plan surnaturel, on voit très bien comment l'amour divin peut séparer et faire que vous n'avez plus conscience parce que notre capital de vie est limité. Notre capital de vie part dans un sens. Je n'ai plus assez de capital de vie pour sentir ce qui est autour de moi. Une concentration très forte peut très bien réaliser quelque chose de très semblable. Il faut faire attention du reste. Pas le droit de se couper de son milieu volontairement. Non, on doit garder ce contact que nous avons par le toucher, par la réflexion sur tel ou tel mystère. Cet amour n'opère plus cette séparation et nous laisse avec le contact extérieur. Alors, elle entendait ce qui se disait à l'extérieur, mais elle ne parlait pas. Il y avait une certaine séparation, un certain degré. Bien, nous n'avons pas le droit de nous séparer de notre milieu en disant je veux faire cette expérience parce qu'on ne sait plus où l'on va et on accepte à ce moment-là une certaine aliénation, une certaine séparation. Ce qu'on n'a pas le droit d'accepter, on doit garder sa responsabilité. Elle avait très bien compris que Jésus lui disait « Est-ce que tu acceptes de me suivre jusqu'à ma passion ?» Et Jésus lui laissait et lui faisait comprendre qu'elle devait demander. Jésus, oui. J'accepte. Je veux bien te suivre jusque-là, jusqu'au bout. Mais ce sont des cas extrêmes. Mais c'est pour moi extrêmement intéressant de voir que ces cas extrêmes, au plan surnaturel, viennent confirmer ce que d'une façon sur notre volonté.